Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré en ce 7 janvier, consacré à l'actualité littéraire avec les forçats de la critique. J'ai fait le calcul, vous avez lu l'équivalent de 1500 pages pour mes beaux yeux ce soir. J'ai nommé Olivia de Lamberterie, duel Arnaud Vivian de Regard, de Transfuge et surtout de la revue Charles, Jean-Claude Raspienjas de La Croix, le respectable Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, qui publie d'ailleurs un essai chez Autrement qui s'appelle « L'admiration contre l'idolâtrie », exactement ce qu'il nous faut pour le masque et la plume, où tu rappelles que l'admiration reste une force, la force de s'étonner devant le beau, le sublime, c'est-à-dire tout le programme que j'ai inscrit ce soir, puisqu'on va parler de 5 des quelques 500 nouveau roman de cette rentrée littéraire, signé Pierre Lemaître, Olivier Adam, Jean-Noël Pancrazy, Patrick Rambaud et Patrick Grainville. Je n'ai gardé volontairement qu'une seule lettre dans le courrier de cette semaine parce qu'elle exprime le désarroi d'une indispensable corporation de l'édition. Je veux nommer les correcteurs. Et Marie Tilleul, qui s'exprime en leur nom, m'a adressé ce message au masque et la plume. Si vous savez que la lutte des casses a commencé, que les CDI zéro heure, c'est pas que du bonheur. Si vous avez lu « Le ravage des signes » de Julien Crac, alors vous avez sans doute déjà signé la pétition des correcteurs précaires de l'édition. Sinon, sachez que les correcteurs ont besoin de votre soutien. On nous refusait déjà un salaire régulier. On nous impose désormais le statut d'auto-entrepreneur. Au-delà de notre précarité, c'est bien du livre qu'il s'agit. Adieu la préparation de copies en CDI, adieu les secondes épreuves, bonjour la lecture sur écran, payer une misère sur facture. Et voilà comment, en bout de chaîne, le lecteur se heurte à un nombre croissant de coquilles et de bêtises non corrigées. Et Marie Tilleul invite, et elle a raison, les auditeurs à taper « correcteur précaire » sur Internet, signer notre pétition, parler de nous sur Twitter et venez nous soutenir. Ce sera dans 2 jours, le 9 janvier à 9h, devant le siège du syndicat de l'édition et c'est 115 boulevard Saint-Germain à Paris. Voilà, je pense que les correcteurs et correctrices ont besoin aussi de votre soutien. Et on commence, mes enfants, avec le roman le plus attendu de cette nouvelle rentrée littéraire, attendu par les lecteurs. Je veux parler de « Couleur de l'incendie » de Pierre Lemaître, c'est chez Albin Michel. C'est la suite d'Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, 1 million d'exemplaires vendus, dont l'adaptation au cinéma par Albert Dupontel a été un énorme succès. Ça a dépassé les 2 millions de spectateurs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Cette fois, c'en est fini de la Grande Guerre et de l'escroquerie au monument aux morts monté par les poilus Édouard Péricourt et Albert Maillard. Et le deuxième tome de cette trilogie s'ouvre par l'enterrement en grande pompe. On est en février 27. Et en présence du chef de l'État, du banquier Marcel Péricourt. Édouard s'étant suicidé, c'est sa fille, Madeleine, qui conduit le deuil et doit prendre la tête de l'empire financier dont elle a hérité. Et alors que la dépouille, ça c'est vraiment la première scène, donc on peut la raconter, que la dépouille de Péricourt sort de l'immeuble, Paul, il a 7 ans, le fils de Madeleine, se jette du deuxième étage et vient s'écraser sur le cercueil de son grand-père. C'est charmant et c'est le début. De Couleur de l'incendie, un roman sur les années 20-30 de 530 pages où Madeleine Péricourt va connaître la ruine, le déclassement, avant de reconstruire sa vie. Il y a fort à parier que le troisième et dernier volume, ce sera sur 39-45. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Ces couleurs de l'incendie, Olivia ?
Je n'étais pas folle
du premier.
Je l'avais dit ici. Et donc, je prenais ce livre assez à contre-cœur. Hein. Et je dois dire que j'ai été assez cueillie. Il est tout à fait symétrique, en fait, dans la forme au premier, puisqu'il commence par une scène absolument spectaculaire et, je dois dire, assez transperçante. Et après, il a une manière quand même très habile de présenter chaque personnage, comme s'il tirait sur un ruban, comme ça. Et donc, on voit le frère qui est fauché, qui espère donc se refaire, la malheureuse fille qui n'a pas du tout la possibilité de reprendre l'empire de son père dans un premier temps, tant elle est affectée par la maladie et la paralysie de son enfant. Le précepteur, je trouve que se mettre comme ça en route, une intrigue assez forte, on a l'impression qu'il pose en fait une bombe sous la table, vraiment comme dans un film d'Hitchcock, on sait qu'il y a la bombe, c'est une sorte de machine à frustration qui va tourner par des vengeances successives. Ça ressemble, alors évidemment sans le panache et sans la finesse de Dumas, mais je trouve que c'est une sorte de feuilleton à la Dumas. Alors, c'est un peu ringard aussi, hein. On est aujourd'hui à l'heure des séries télévisées américaines extrêmement bien écrites. Donc, je trouve que dans un genre un peu suranné, eh ben, c'est extrêmement
efficace.
En même
temps, ça montre bien, je trouve, ce qu'a été aussi cette grande crise.
Oui.
Il parlait bien de la Grande Guerre, mais cette grande crise
de 29 et il décrit extrêmement bien l'époque. Il décrit des personnages assez amusants et il a une sorte de sens de l'ironie qui marche très bien. Il décrit deux filles, les deux filles du frère, en expliquant qu'elles ont une dentition absolument monstrueuse qui va être très compliquée, sans dot, elles seront immariables tellement elles ont des dents affreuses. Non, il a le sens du détail. Honnêtement, ça se prend, ça se lit, ça se dévore.
Donc tu préfères le deuxième au premier quand même, Arnaud?
Oui.
Est-ce que vous préférez le premier c'est les mêmes, en fait. C'est la même continuité.
C'est le versant féminin, oui.
Ouais. C'est le roman feuilleton, donc effectivement, à la Dumas. Ce qui est intéressant, je trouve que Pierre Lemaitre, il a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il est dans la culture populaire. C'est un écrivain de culture populaire qui fait référence, d'ailleurs, il y a beaucoup l'esprit de la BD, finalement, dans son travail. On le voit, là, avec le personnage de la diva, qui fait vraiment penser à la Castafiore, les deux sœurs qui sont des jumelles, qui font penser au Dupont. Enfin, il y a vraiment une quantité de références, finalement, à l'univers de la BD, qui font qu'on est vraiment dans la culture, oui, la culture populaire, au très bon sens du terme. Et l'autre chose qui revient, qui était déjà là, présente dans le premier tome, c'est l'aspect politique, finalement, du travail de Pierre Lemaitre. C'est ça qui est assez fort.
Qu'on retrouvait même dans ses polars. Hein. Il a toujours été un auteur de polars engagé. Hein.
Et là, la crise de 29 nous est expliquée d'une manière extrêmement limpide, avec d'ailleurs un problème qui est très contemporain, et d'ailleurs tout est très contemporain dans ce livre qui se passe, pourtant il y a pratiquement 100 ans, c'est l'évasion fiscale. Il y a là une ironie de la part de Pierre Lemaitre avec un personnage de politicien qui devient le chef de la commission de l'évasion fiscale, qui renvoie complètement à ce que nous vivons aujourd'hui, au problème que nous traversons aujourd'hui. C'est absolument fabuleux. Et j'ai envie de dire que...
Très contemporain aussi, quand un président de la République va à un enterrement de quelqu'un de célèbre.
Oui.
On a connu ça récemment.
Hein. Oui, on a connu ça récemment. Et d'une certaine manière, on a eu le livre Le Prix Goncourt à Éric Vuillard sur le thème de l'Anschluss. On pourrait dire qu'on a là les deux volets, finalement, une espèce de, comment dire, de version très stylisée chez Éric Vuillard de l'histoire, et là, une version très populaire du même sujet, finalement, c'est-à-dire comment on s'avance vers les années 30 et vers le fascisme.
Ouais. Jean-Claude?
Ah, c'est que du plaisir. C'est-à-dire qu'il était attendu au tournant de l'après-Goncourt.
Toi, tu avais aimé le premier?
Oui. Moi, j'aime tout, là. J'aime tout.
Tu prends tout.
Oui, je prends tout.
Tu aimes même déjà le troisième que t'as pas encore lu.
Ah, mais je l'adore déjà. Je l'adore déjà. Non, mais il était évidemment attendu. Et c'est une vraie réussite. Et ce qui est flagrant quand on le lit, c'est qu'il a pris beaucoup de plaisir. Enfin, c'est évident qu'il s'est beaucoup amusé à faire ça.
Beaucoup documenté aussi.
Beaucoup documenté. Et la façon dont il joue avec ça, par exemple, vous parliez du côté feuilleton roman, à plusieurs reprises, il interpelle le lecteur. C'est-à-dire qu'il joue de la complicité du lecteur en disant, lecteur, est-ce que tu te souviens? Est-ce que vous vous souvenez? Voilà. La scène d'ouverture dont tu as parlé, et dont tu as parlé aussi, Olivia, elle est incroyablement racontée. C'est-à-dire, elle court sur 30 pages. Rien que les grandes pompes de ses funérailles, le premier chapitre est là-dessus. C'est absolument extraordinaire. Et évidemment, ce qui se passe, et puis après, évidemment, la déroute générale. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe quelque chose comme ça? Vous parliez de l'évasion fiscale. Il y a aussi tout le boursicotage de cette époque où tout le monde est là. Il est aussi un as des choses trappes, des vengeances qui m'étonnent à petit feu. Et tout ça fermente dans quelque chose qui est absolument... ça caracole dans tous les sens, on s'ennuie jamais. Il y a une vraie... Tout à l'heure, tu parlais de BD. Je trouve qu'il y a quand même une vraie profondeur des personnages qui sont vraiment travaillés. Les 500 pages, c'est pas 500 pages de remplissage.
Il y a une modestie d'écriture qui est assez rare.
Hein, puis il y a une vraie densité, quoi. Ces 500 pages, elles sont fortes, quoi. Elles sont denses, elles sont vivantes. On s'ennuie pas un instant.
On s'ennuie pas. Impossible. Lâcher, je dois dire, avant la fin.
C'est que du plaisir.
Michel.
Je suis absolument d'accord, mais j'ai été emballé par ce livre. Je n'avais pas aimé.
J'aime beaucoup l'idée de commencer l'année avec tout d'un coup un accord critique auquel je ne suis pas habitué au masque.
Ben oui, mais on ne va pas se mentir. Moi, j'ai vraiment. J'avais pas fonctionné, j'avais pas marché avec le précédent. Mais ça prouve qu'on peut avoir le Goncourt et quand même écrire de bons livres après. C'est intéressant à savoir. Non, je trouve que dans la période où nous sommes, où on ne cesse de se poser la question de savoir si on est ou non dans des années 30, dans un genre d'années 30, c'est-à-dire en effet la porte ouverte au pire, ce livre apporte une pierre au débat sous une forme romanesque à l'ancienne, mais à l'ancienne pas tant que ça non plus. Il y a une ironie en filigrane de chapitre en chapitre qui montre que le maître effectivement est très conscient de ce qu'il fait et s'amuse beaucoup. Donc il y a une sorte d'ironie légère qui ne n'appuie pas et qui donne au livre aussi son rythme, sa couleur. Non, c'est vraiment...
Il faut remarquer que nous sommes de bonne composition, car le tableau qu'il fait de la presse
et de
la compromission de la presse est assez épatant. Oui. Mais cela dit,
ça a totalement changé.
C'est
le seul point où on veut dire
c'est
vraiment.
C'est le jour et l'année.
Ça, c'est fini.
Bon, si vous êtes un peu d'argent après tout ce que vous avez acheté pour les fêtes, eh bien, on vous conseille tous au masque Couleur de l'incendie, c'est au pluriel. Et c'est de Pierre Lemaître chez Albin Michel, encore un ancien prix Goncourt. Il y a plein d'anciens prix Goncourt ce soir d'ailleurs. Quand Dieu apprenait le dessin, qui est un beau titre. Et c'est un roman chez Grasset de Patrick Rambaud, l'auteur des nombreuses, je crois qu'il y en a 5 ou 6 chroniques du règne de Nicolas Ier. Ça paraît être la préhistoire. Prix Goncourt 97 pour La Bataille nous emmène cette fois dans l'Europe que connaît très bien Michel du 9e siècle.
Comme ma poche.
Encore, là je le cite, encore aux mains des évêques et des papes. Il raconte la rivalité entre Rome la puissante et Venise la récalcitrante et l'envoi par le doge de Rialto en 828, je crois que tu étais du voyage Michel, de 2 tribuns à Alexandrie.
J'ai tenu la chronique.
Afin de ramener par tous les moyens la dépouille momifiée de Saint-Marc. Et c'est comme ça qu'on a édifié la basilique Saint-Marc, encore, nous dit Rambaud, rudimentaire et en forme de trèfle. Là, c'est beaucoup moins gros que le Lemaître, mais on apprend un tas de choses, non, Michel ?
Oui, on apprend un tas de choses, mais est-ce bien le problème ?
Moi, c'était une question, hein. C'était pas.
Oui, non, mais je tente de te répondre.
Oui. Tu n'as rien
appris. En demandant un peu ce que j'ai trouvé à ce livre, parce que le problème avec Patrick Rambaud, qui est un personnage terriblement sympathique, c'est qu'il ramboïse un peu tout ce qu'il écrit. On le voit à travers la page, on le voit toujours avec sa mine moustachue de barbu, avec sa pipe, etc. Bon. Et quand j'ai envie de Venise, je ne pense pas à Patrick Rambaud. Je pense à Monteverdi, mais je ne pense pas à Rambaud.
Ou à Paul Morand.
Enfin bon... La liste est interminable, mais Patrick Rambaud n'y figure pas, du moins dans la mienne. Alors, c'est pas une raison pour dire du mal de ce livre, qui est vraiment très bien écrit et plein.
Il a pas l'air de t'avoir plu du tout, hein.
Mais voilà, non. Enfin, j'ai rien à en faire en fait, finalement.
Donc, en gros, tu nous dis que si on le manque, c'est pas une grave lagune, quoi. Non, c'est ça.
Hein, si tu veux.
Ouais. Ouais, non.
Oui, là, non. Il faut pas charrier quand même. Hein.
Jean-Claude.
Non, mais je comprends mal ton...
Pourtant, c'est clair, clair.
Oui, mais quand tu parles du Venise dont tu parles, c'est précisément pas celui de Rambaud. Celui de Rambaud, c'est celui du 9e siècle. On est quand même dans
Rambaud, c'est AUD pour ceux qui nous croient un cours de route, hein, c'est pas...
Non, mais les histoires, je vois bien les histoires.
Non, mais on n'est pas dans le raffinement vénitien. On est dans la brutalité, dans le côté sauvage. On vend des esclaves, on trucide à tout le bras.
On fait un trafic de reliques.
On fait un trafic de reliques. Enfin bon.
Oui, mais je m'en fiche.
Donc ça ne peut pas être ton Venise là et dans toute ta librairie. C'est sûr que tu ne vas pas ranger Rambaud avec les auteurs dont tu as parlé. Donc la comparaison, elle me paraît oiseuse. C'est-à-dire que ça ne marche pas. Alors, pour revenir...
En début d'année, c'est pas gentil de dire à Michel, d'abord de lui parler sur ce ton-là.
Écoute, c'est pas
moi,
mal...
Moi, oiseux, je trouve que tu...
Écoute, moi, je trouve que c'est pas mal, en 2018, d'arriver à placer dans une émission de radio oiseux.
Oui.
Voilà,
enfin, c'est le masque et la plume.
Oui, c'est le masque et la plume, mais tu vois, c'est bien.
On s'y retrouve.
Tu pourrais être sensible à cet effort-là. Non, mais c'est un mélange de Contes des Mille et Une Nuits et de récits picaresques.
Mais t'as aimé ou pas ?
Ah, mais oui.
Ah, t'as aimé ?
Ah, mais oui, bien sûr.
Les Mille et Une Nuits ?
Mais oui.
T'as trouvé les Mille et Une
Nuits ? Mais oui, avec les taïrs un petit peu étranges qui subit des choses terribles et qui va se venger. Enfin bon, c'est vrai qu'il y a une somme de détails absolument extraordinaire et l'ironie qu'il a sur le trafic des reliques. Et sur quoi ça tient ? C'est-à-dire, pour le coup, sur quoi le Venise que tu adores va reposer est quand même un truc qui est très, très, très ténu.
Je le sais, et j'en suis bien content, et voilà.
Et qui tient à la crédulité. La crédulité qui a très, très bien marché. Et moi, je trouve que c'est une chronique. Alors, pour le coup, à la Rambo, là, c'est plus Sarkozy, Hollande, mais je trouve que ça marche très, très bien. Et non, moi, j'ai appris des choses, ça m'a plu.
Je me convainc.
Et Arnaud, t'as appris des choses, toi ?
Oui, évidemment, j'ai appris des choses. Je connais pas Venise du 9e siècle. Je suis pas un spécialiste. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'érudition pour, finalement, un effet quasiment nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... personnages, il n'y a pas d'intrigue, c'est assez...
Pseudo-dialogue.
Oui, pseudo-dialogue. Et d'ailleurs, j'ai vu que c'était finalement un recyclage, puisque... visiblement, ce livre a paru chez Balan en 1988. Il y a un copyright.
Ah, c'est
embêtant.
Ah, oui, bien sûr. Et ça se sent un peu, hein. Ça fait un peu vieux boudin recyclé, quoi. Voilà.
Enfin, je me disais, ça
sent
un petit peu
le boudin
plus
du 31
siècle.
Qui est ressorti
chez Balan, ouais. 88.
Oui, il y a un copyright, et 2018 chez Grasset pour cette édition-là. Donc, visiblement, il y a eu là une espèce de recyclage. Il faut vraiment être juré au prix Goncourt pour faire en sorte que votre éditeur vous recycle un livre qui est vieux de 30 ans. Donc, j'ai vu ça. Ça se sent. Je suis désolé, ça se sent un petit peu à la lecture. Et d'ailleurs, le passage où Philomène, pour être puni, est mise un an dans une porcherie au moment de Balance ton porc, ça fait très bizarre. On voit bien qu'effectivement ça date de 1988. De même que voler la relique aux musulmans en la cachant sous des côtelettes de porc en 2018 au moment de ce bon vieux vivre ensemble, ça fait quand même super bizarre. Donc voilà, je crois que ce recyclage-là de Rambaud n'est pas bon.
Olivia ?
Oui, moi je ne savais pas que c'était du recyclage. Moi je comprends très très bien ce que dit Michel Crépu. C'est-à-dire que c'est un livre, il faut avoir envie. Et moi, je n'avais pas très envie, je dois le reconnaître. Pourtant, Rambaud, alors là, je ne sais pas s'il l'avait mis en 88 ou pas, ça commence par une très jolie dédicace. Vous savez, les dédicaces sont de plus en plus bêtes. Souvent, c'est à tous les enfants du monde qui souffrent et qui ont mal et qui n'ont pas de parents et qui sont orphelins et qui sont battus.
Ça, c'est Catherine Pancol, c'est pas... Non.
Non, pourtant, je n'ai pas lu Pancol, mais il y a beaucoup de trucs comme ça, très... oiseux, voilà, je l'ai employé
aussi.
C'est
le mot de la soirée.
Et là, ça commence, c'est charmant, on a envie de foncer à Venise. C'est dédicacé à la petite dame du Rialto qui vend au printemps des artichauts minuscules, au petit monsieur impeccable dans son Loden vert qui vient s'asseoir chaque jour à la même heure sur un banc et ne regarde nulle part. Donc vraiment, la dédicace, on est à Venise.
Mais je suis déjà
après, on est dans les visiteurs, on est, on se retrouve chez Jacouille la Fripouille. Ils sont ignobles, ils s'arrachent la tête, ils se lutinent, butinent, machin. Bon. Et en plus, moi, j'étais vraiment déçue parce que moi, je m'attendais à un livre.
On est au 9e siècle, hein.
Moi, je m'attendais à Macron. Je voulais Macron premier, Jupiter, Brigitte, reine de France.
Ça n'inspire pas ça, apparemment.
Mais peut-être qu'en même temps, c'est une métaphore de Macron, parce que.
Mais non, mais s'il date de 88, le livre...
Ah oui,
oui,
c'est un peu...
mais peut-être
c'est la réélection de Mitterrand, c'est une métaphore de la réélection de Mitterrand.
Parce que je vous explique, c'est l'histoire de Venise. C'est l'histoire de Venise qui ne veut pas appartenir ni au nord ni au sud. Au sud, écrit Rambaud, on sait aussi bien caresser que tuer, c'est le Parti Socialiste. Au nord, tout vous agresse, les Républicains. Et au milieu, le Rialto qui veut profiter des deux mondes en inventant un mode de vie plus simple, plus clair et plus
nécessaire. T'es devenu Michel Cotta en 2018, finalement.
Ouais, je suis Michel Cotta. Non, je ne suis pas Michel Cotta, je suis Catherine Ney.
Te fais pas de mal comme ça.
J'adore Catherine. Honnêtement,
moi, je suis pour Catherine.
Il faut avoir envie. C'est foutraque, mal fichu, pas très intéressant.
C'est le 9e siècle.
Mais le 9e siècle est bien plus riche.
Très intéressant.
Le 9e siècle,
c'est l'âge des
ténèbres. ténèbres. Siècle. Rambaud a l'air de ne pas le savoir.
Non, ce n'est pas l'âge des ténèbres, Jean-Claude. Non, non, ce n'est pas vrai.
C'est l'âge des ténèbres. Non. C'est le Venise de l'âge des ténèbres. Évidemment, Dormesson s'y promène pas, ni solaire, ça va de soi.
Voilà. Laissons Dormesson.
So what?
Quand Dieu apprenait le dessin, c'est chez Grasset, et c'est donc le roman...
Chez Ballon.
De Patrick Rambaud. Chanson de la ville silencieuse. C'est pas simplement le titre d'une chanson de Dominica, c'est le nouveau roman chez Flammarion d'Olivier Adam, l'auteur notamment de Je vais bien, Ne t'en fais pas, Passer l'hiver, Falaise et beaucoup de livres qui ont été d'ailleurs pour la plupart portés à l'écran. Et c'est la première fois qu'il se glisse à la première personne, n'est-ce pas Olivia, dans la peau d'une femme. Une jeune femme, éditrice à Paris, qui part pour Lisbonne à la recherche de son père disparu il y a 15 ans et donné pour mort. Après qu'on a retrouvé son Alfa Romeo près d'un fleuve, ce père, Antoine Schaeffer, était un chanteur populaire, légendaire, un dandy rock. Je ne sais pas si tu pourrais nous faire un portrait en vérité de cet homme, dans l'ombre duquel elle a grandi. Alors, dans la BO du livre, on trouve... C'est très, très riche et varié, hein, puisqu'il y a Léonard Cohen, Nina Simone, Nino Ferrer, Jean-Louis Murat, Julien Doré, bien sûr, et Dominica. Et y compris pour le titre. Tu pourrais nous faire, Arnaud, un portrait, je dirais, musical de cet Antoine Schaeffer ?
Visiblement, là,
c'est pas évident.
D'ailleurs,
hein.
Olivier Adam, si, il le dit. D'abord, il dit qu'il l'a croisé, il a eu une vision lorsqu'il est allé au Portugal, justement, parce qu'une partie du
oui,
se passe.
Oui, c'était Nino Ferrer.
Nino Ferrer, voilà. Ouais. C'était Nino Ferrer.
Que j'adore.
Mais c'est surtout, d'ailleurs. Aussi. Ah oui, bien sûr, Nino ouais. Ferrer. Les cornichons. Respect. Mais respect. Les cornichons. Ouais. Le téléphone.
Et on dirait le Sud.
Oui. Ah oui,
il
bien
était
sûr.
Beau. Voilà. Il était magnifique.
Il n'exagère pas non plus.
Ah si. Oh là là.
Si.
Oui, c'est magnifique.
C'est pas ton style pourtant.
Tout à fait mon style.
Ah, bah, mais le problème quand même, justement, c'est cette absence de... À mon avis, hein, le problème du livre, c'est cette absence de musique totale. C'est-à-dire que, il y a un problème, c'est qu'on est là, on parle de musique, mais justement, il n'y en a pas. Il n'y en a nulle part, ni dans la phrase. Voilà, ça fait
Marie-Michel.
Bah ouais, mais c'est un problème quand vous oui. écrire sur la musique de
pourtant,
pas
à la fin du livre, ici,
même le Portugal.
Du livre,
faut vraiment être un mauvais écrivain pour rater le Portugal. Hein, hein, et même là, mais il n'y a rien, mais rien.
Ouais, vous êtes méchant. Ouais.
Ça fait longtemps que je voulais la placer, mais Adam et Mièvre.
C'est bien
la seule chose qui est vraiment bien, c'est ce qu'il écrit sur Massirco, le 18e arrondissement.
Encore
oh, mais non, mais c'est vrai, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est Massirco.
Mais c'est
ce
pas
livre,
vrai.
Parce que
mais
elle,
attends, Arnaud, on est le 7 janvier, donc maintenant il faut oublier le passé. Tu n'as pas été élu.
Non, mais
tu n'as pas été élu.
Je te rappelle, Jérôme, qu'il y a des élections dans 4 ans.
Oh non, tu vas pas recommencer.
Pourquoi pas ?
Oh non.
Donc là, je suis en campagne, hein, je suis désolé, mais les gens qui se mettent en
marche.
J'ai fait l'erreur la dernière fois de me mettre en campagne 3 semaines avant l'élection.
Trop tard.
Donc là, je me mets en campagne tout de suite. Voilà, tout de suite.
Là, sachez-le.
Mais juste, alors, autre chose, on en profite, hein, dans le 7 janvier, mais tu vas pas à chaque masque littéraire me dire dans ma circo, si ?
Bah, là, il est vraiment question de ma circo. C'est ce qu'il y a de plus beau.
Non,
quand même.
Mais il y a le Portugal quand même aussi.
Oui, mais ça, c'est
Lisbonne.
Ça, c'est
raté.
Alors que la description c'est de vrai. L'avenue Junot, mais c'est magnifique. Là, soudainement, là, je vois un écrivain. Alors que toutes les autres pages, ça n'existe pas. Il y a même un petit côté réac.
Non,
ah bah
non,
si.
Non.
C'est une espèce de communauté qui, évidemment, fait penser à la communauté de Tarnac, qui est décrite d'une manière, mais totalement digne du Figaro. C'est réactionnaire, quoi. Franchement, je n'en venais pas, quand même, de la part d'Olivier Adam, qui, dans la lisière, avait fait un texte plutôt de gauche. Voilà. Là, soudainement,
oui, mais qu'est-ce qu'il... aujourd'hui,
il est fatigué, ce garçon. Et d'ailleurs, c'est un livre sur la fatigue, sur l'industrie culturelle, et les gens que ça fatigue, qui continuent à produire alors qu'ils n'en peuvent plus. Quoi.
Et les lecteurs aussi.
Et le lecteur, lui, là. Et d'ailleurs, l'éditrice, elle dit, ça serait bien que finalement ce livre ne sorte pas. Elle travaille sur un livre, elle dit, ça serait bien finalement que là, on s'arrête là. Ben voilà, ça serait bien qu'on s'arrête là, ouais.
Michel.
Oui, Olivier Adam est un brillant prosateur, on le sait depuis le début. Je me souviens, je crois que c'était Ring, son premier livre. Qui avait
été aussi porté à l'écran sur la boxe.
Ouais, c'était un beau livre.
Il y en a eu plusieurs.
Là, personnellement...
J'aime beaucoup quand tu commences par personnellement.
Oui, moi aussi j'aime beaucoup.
Mais tu n'as pas dit moi personnellement, ce qui est déjà bien.
Oui, ça ne m'a absolument pas intéressé. Enfin, je rejoins ce que disait Arnaud, je le dirais plus sobrement.
Tu n'as pas été sensible à la musique du personnage?
Non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Il n'y a pas de musique dans ce livre. On ne sait pas ce qu'il y a exactement, d'ailleurs. Peut-être que c'est, en effet, la fatigue de l'industrie culturelle qui fait son effet, c'est possible. Mais je n'ai rien senti dans ce livre. Je n'ai rien senti, rien.
Alors, est-ce que à la première personne, Olivia, est-ce que tu es convaincue que Olivia Adam peut se transformer en narratrice?
Pas mal. Je trouve que la voix de la narratrice...
Là, c'est convaincant.
...est assez réussie. Convaincant, je ne sais pas, dans tous les cas... Ça sonne juste, mais le problème, c'est le personnage du père. Ouais. C'est donc une fille à la recherche de son père, et tu as bien finalement pointé le problème, parce que elle comprend pas son père, elle sait pas qui il est, mais nous non plus, parce que il a voulu faire de ce personnage donc Jean-Louis Murat, Dominica, Nino Ferrer, Léo Ferré, mais aussi Patrick Juvet,
Alain Bachon,
Cantat, tout le monde, Gainsbourg. Donc, à force d'être tout le monde, on a envie de lui dire mais choisis ton camp, camarade. À un moment, il faut que il nous donne à voir ou à entendre ce père. Or, on ne peut pas. Il est à la fois solitaire, mondain, il aime boire, il n'aime pas boire.
Non, parce que c'est dandy rock.
C'est un fantasme littéraire.
Donc, le personnage, du coup, devient totalement filandreux et totalement cliché. On a l'impression qu'il enfonce toutes les portes, alors avec des Santiago, puisque c'est un rocker. Mais honnêtement, ce n'est jamais incarné. Voilà, le personnage est loupé. Or, le livre repose quand même là-dessus. L'autre problème qui est abordé dans le livre, c'est comment est-ce qu'on peut être l'enfant d'une légende et d'un père mythique, absent, d'une mère pas mythique mais absente. Et ça, ça marche pas non plus, parce que je trouve que ce problème est complètement évacué. Ça m'a fait penser à un assez beau livre, qui était le livre de Diego Gary, qui est le fils de Gene Seberg et de Romain Gary, et qui s'y connaît en matière de parents mythiques et suicidés. Et le livre était raté, mais il y avait une sorte de mélancolie.
C'est le destin du fils qui était terrible.
Mais il y avait une sorte de mélancolie qui sourdait tout le temps. Et là, il n'y a pas ça. C'est parce que le livre, il est trop propre. Ça manque de bavure, ça manque d'âme.
Et puis ça manque de Johnny.
Ça manque de Johnny, peut-être. Non, Johnny, on...
Il peut très beau livre sur un chanteur qui arrête de... C'est Freedom de Franzen.
Oui, c'est vrai qu'il y avait ça.
Ah oui, il y avait un immense personnage de rocker qui décide d'arrêter la musique. Mais là, Franzen, il connaît parfaitement son sujet.
C'est propre, il y a un problème d'écriture, on sombre sous les juxtapositions, sous les sujets qui sont avant les verbes ou après les verbes, ça marche pas.
Jean-Claude.
Tu as dit, Arnaud, qu'il n'y avait pas de musique, moi je dirais qu'il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de phrases, c'est un roman tout à fait paresseux, c'est un assemblage de clichés, c'est comme s'il avait pris des notes, mais pas des notes de musique, des notes comme ça, qu'il les avait jetées sur une page. Effectivement, il n'y a pas de verbe, c'est une sorte d'énumération, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de personnage.
C'est un peu excessif.
Non, franchement, je l'ai repris, en me disant, bon, je suis peut-être première lecture, je l'ai repris, c'était encore pire. C'était encore pire, non, franchement. Et c'est sans plaisir que je le dis, vraiment sans plaisir. Je trouve que ce livre est inintéressant, c'est l'esquisse d'un roman qui n'a pas encore été écrit, qu'il devrait écrire. Et puis le style, quand même, il y a un vrai, vrai problème de style. Alors moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais moi, je bute sur le style. J'ai vraiment du mal avec son style. Et l'histoire ne m'intéresse pas puisqu'elle n'existe pas. Non, là, c'est un roman paresseux. C'est une histoire molle qui vous tombe des mains. C'est c'est farci de clichés.
Pourtant, il y a de belles choses.
Tout ça.
Dans ce livre, de temps en temps, il y a des petits moments qui sont des
moments. Pourquoi cette saillie tout d'un coup? Il y a
tout d'un coup, tu te réveilles.
Pourquoi cette saillie? Non, j'ajoute un complément à ce que vient de dire Jean-Claude.
Un complément.
Et voilà, oui, de temps en temps, il y a des petits moments qui sont sympas.
Ce que j'adore, c'est ta conviction. Quand tu t'exprimes, tu es convaincu. Chanson de la ville silencieuse, c'est donc chez Flammarion et c'est Olivier Adam. Falaise des fous au seuil, qu'Olivia m'a demandé d'inscrire ce soir, le 26e roman de Patrick Grainville, prix Goncourt, cette fois-ci 1976. Pour les flamboyants, vous n'étiez pas né. Flamboyant aussi, cet énorme roman, 650 pages, Olivia, que tu m'as demandé de lire, où l'écrivain natif de Villers-sur-Mer, dans le Calvados, prête cette fois sa plume à un Normand établi à Étretat, et de 1868 à 1927, et de l'invention de l'impressionnisme à la traversée de l'Atlantique par Lindbergh, il raconte sa vie. Première phrase, « Jadis, j'ai embarqué sur la mer un jeune homme qui devint éternel ». Belle première phrase. Et la suivante, « J'ai dû d'abord apercevoir Claude Monet aux extrémités de la Grève, au pied de la falaise d'Aval, mais ce n'était pas le premier peintre que je voyais hanter Étretat ». Et c'est une fresque qui embrasse la guerre de 70, l'affaire Dreyfus, la Grande Guerre, dont Monet, bien sûr, est la figure centrale, mais on croise aussi Courbet, Boudin, Hugo, les Normands Flaubert et Maupassant, lequel est aussi exubérant et bavard que Monet est taiseux, et aussi, vers la fin, un certain Eugène Grinville. Jean-Claude, est-ce que tu as lu cet énorme pavé ?
Ah, j'ai adoré ça. Je trouve que c'est le grand œuvre de Grinville. Je trouve que c'est son plus beau livre, c'est son livre le plus abouti, le plus fort, le plus puissant. Il y a une densité absolument extraordinaire dans ce livre.
Sans d'ailleurs, petite parenthèse, qu'on retrouve la prose baroque qui l'a rendu célèbre, qui était celle des flamboyants.
Précisément, il arrive à 70 ans. Il dit d'ailleurs, enfin,
il ne les fait pas.
Je l'ai rencontré, il ne les fait pas. Mais il dit que précisément, il avait besoin derrière lui de quasiment 40 ans d'écriture pour arriver à ça. Il a considérablement lissé son fameux baroquisme pour arriver sans renoncer à ça. Et il arrive à une sorte d'équilibre parfait, alors là, de style, d'expression, d'impression, tous les personnages sont magnifiques, la façon dont il les investit est magnifique. Le travail littéraire qu'il fait sur la peinture est absolument prodigieux. C'est-à-dire qu'on a quasiment plus de 400
Monet,
pages.
Et sur Monet, on croyait avoir tout lu sur lui.
Et on n'avait rien lu.
Et on a quasiment 400 pages. On a quasiment 400 pages de description de tableaux, mais qui sont d'une richesse, d'une inventivité, d'un renouvellement permanent. Il y a un mouvement aussi à l'intérieur de ce livre qui est absolument prodigieux.
C'est la marée, ça c'est la marée.
En tout cas, moi je trouve qu'il est au sommet de son art, là. D'ailleurs, il y a un moment, on l'avait un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'il s'était laissé aller à des choses très très baroques.
Et puis même quand il faisait des romans historiques, je pense aux Vikings par exemple, il était toujours rattrapé par cette prose, d'ailleurs assez belle, mais très tempétueuse. Là, on a l'impression que vraiment, il est devenu un chroniqueur historique de cette période incroyable.
Mais la virtuosité avec laquelle il parle de la peinture, la façon dont il se met à la place de ses peintres, de l'extérieur, la façon dont il les voit travailler, remettre sur le métier, être englouti par cette sensation d'infini qui est en eux, la très belle scène où le narrateur va voir Monet à Giverny, alors que c'est la Grande Guerre, et que Monet est enfermé dans cette sorte d'infini, livré à son perfectionnisme, sans se soucier de ce qui se passe dans la Grande Guerre, est absolument extraordinaire. Et à chaque fois qu'il aborde un peintre d'une façon ou d'une autre, et puis ces personnages existent, toutes les femmes qui sont autour de lui, les histoires qu'il a. Moi, je trouve ça, mais alors d'une réussite totale.
Toujours lire à propos de Monet, Giverny, j'y pense, mais la correspondance Monet-Clémenceau, qui est un sommet à la fois sur l'amitié, et là, parle beaucoup, c'est pour ça que je le dis.
Mais sur le côté paradoxal de Clémenceau, c'est très très bien. C'est-à-dire l'homme d'État inflexible qui va envoyer la troupe contre les ouvriers, qui est par ailleurs le grand ami.
Et grâce à qui les nymphéas sont.
Oui, et puis il va se fâcher en plus avec Monet pour faire venir les nymphéas.
Et les nymphéas.
Mais c'est vraiment un livre absolument extraordinaire.
Michel.
Je ne sais pas comment je peux glisser un mot.
Là, tu dis total respect, toi, non ?
Après ce que vient de dire Jean-Claude, c'est un livre tout à fait étonnant, absolument étonnant. Je l'ai pris avec un peu de. J'étais pas sûr d'avoir l'énergie.
Mais il est lourd.
Oui, voilà. C'est
quand à ton âge, c'est difficile.
Voilà, j'ai quand même les jours passent. Enfin bon.
Oui, puis la vie est courte.
La vie est courte. Et miracle, ce livre est une splendeur, absolument. Monet nage dans la peinture comme dans le bonheur, ou il nage dans le bonheur comme dans la peinture. Je ne sais plus quelle est la formule.
Et pas que Monet, encore une fois.
Il y a des autres peintres. Il y a toute une l'enterrement de Victor Hugo, oui. J'ai raconté, est extraordinaire. On connaît déjà, mais il brasse les choses d'une façon assez, vraiment spectaculaire. Et j'ai été emporté, tout simplement. Et donc, je vous conseille ce livre.
Sans compter un éloge légitime de la Normandie, oui, Jean-Claude.
Les 10 pages sur la traversée de Lindbergh sont exceptionnelles. Mais vraiment exceptionnel. On sort de la peinture, là. Mais c'est exceptionnel. Et en plus, évidemment, Lindbergh passe au-dessus de chez Monet à Giverny. Mais c'est très, très, très beau. Voilà.
Olivia.
Non, mais je ne voulais pas le lire parce que...
Pourquoi ?
Il est très long. Sur chaque page, il y a énormément de signes. On a l'impression qu'une page fait 10 pages.
Non, c'est pas vrai.
Ah, d'un point de vue typographique, si.
Mais non.
Et nous avons dû le lire en fin d'année avec 200 romans dans les mollets, oui. Épuisés. Et je dois dire...
Comme s'il fallait faire le tour
malais. Que je l'ai pris et c'est splendide. Honnêtement, c'est splendide. Je trouve que le parti pris de raconter comme ça l'histoire au travers des peintres est magnifique. Et autant, on n'entend rien chez Olivier Adam en termes de musique, mais là, effectivement, on voit. La peinture, les descriptions de la mer, de la grève sont sublimes. Et les personnages féminins sont particulièrement réussis. Non pas qu'ils soient particulièrement ratés souvent, mais là, ils sont d'une finesse. Le personnage, je dois dire, de Mathilde est assez extraordinaire.
Oui, parce qu'il y a aussi des histoires d'amour.
Il y a beaucoup d'histoires d'amour. Il y a des histoires assez échevelées et parfois qui vont contre la morale.
Mais qui sont dans la grande veine de Grainville. Hein.
Alors moi, je n'avais jamais lu Grainville, hein, je dois le dire.
C'est pas vrai.
76.
Jamais.
Bah non, j'étais pas née en 76.
Depuis, il a écrit une trentaine de livres.
Non, j'avais jamais lu. Parce que un jour, j'avais essayé, j'avais trouvé ça baroque. Là, ce n'est pas baroque, l'écriture est splendide. Et on comprend, effectivement, à la fin, la nécessité autobiographique qui sourd dans tout le livre et qui lui donne, en plus, une autre portée. Honnêtement, c'est un livre magnifique.
Arnaud.
Moi, je lisais Grainville quand j'étais...
Pas né.
Non, ado. Non. Dans ma famille, quelqu'un était fan, qui avait les livres. Et en fait, j'avais repéré quand même que c'est un grand, grand auteur de cul. Les passages de cul,
il a fait un roman entier sur la fesse.
Voilà. Et là, on voit
qu'il aime ça.
Les sueurs du cul d'Anna, de mes couilles à l'assaut du vrai monde, tout de suite suivi de cette phrase, il n'y a pas de couilles dans l'œuvre de Monet. Et là, une explication sur le fait pourquoi il n'y a pas de couilles dans l'œuvre de Monet. Tout de suite, là, on est... Et on s'est dit, c'est incroyable.
C'est une question qu'on se pose tous, d'ailleurs.
Pourquoi il n'y a pas de couilles dans l'œuvre de Monet ? Alors qu'il y en a chez Courbet. Et d'ailleurs, c'est toute l'histoire de ce livre. C'est quand même l'histoire de quelqu'un qui préfère la peinture de Courbet à celle de Monet. Absolument. Et c'est quand même 700 pages pour expliquer pourquoi. Pourquoi il y a chez Courbet quelque chose qui renvoie, évidemment, à Flaubert. C'est ce parallèle constant entre la littérature et la peinture. Et tout le monde est là. Hein. Il y a aussi un passage où on voit Proust passer, Mallarmé passer. Enfin, c'est vraiment toute l'histoire à la fois de la littérature et de la peinture avec des éléments. Par exemple, le voyage aux États-Unis, on comprend que dès la fin du 19e, il y a déjà un marché de l'art et que les Américains l'ont pris, finalement. Ils possèdent déjà les plus grandes œuvres françaises de la peinture impressionniste. Ça, je ne savais pas que le marché avait déjà commencé à ce moment-là. Il y a vraiment une espèce de puissance de narration. Alors, le côté fresque est un peu... c'est un peu too much. Il y a un côté tout
oui,
match.
Mais bon, mais c'est comme ça. On l'a vu avec Le Maître, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que les gens aiment aussi.
Il faut l'accepter.
Il faut l'accepter.
Non, mais c'est vrai.
C'est
mais
pas bio.
Il y a quand même. Parce que ça fonctionne aussi en tableau, quoi. Donc, l'enterrement de Victor Hugo, voilà, c'est 10 pages. On sent le tableau. On sent le voilà, il faut faire ça, ce passage-là, le vol de Lindbergh, etc. Et donc, je trouve quand même que par rapport à un livre précédent que j'avais adoré, il s'appelait Bizarre. Sur un autre peintre.
C'était sur les Sioux.
Sur George Catlin, oui. Le premier peintre américain à être allé dans le Far West peindre les Sioux, qui était un livre beaucoup plus modeste, mais finalement plus fort que celui-ci. Parce que je crois que celui-ci a quand même un petit problème narratif, c'est que ce personnage... personnage qui nous raconte, n'existe pas. On ne le sent pas exister. On sent trop Patrick Grainville en train d'écrire, lui. Il n'y a pas le film de psychologie.
Moi, je pense qu'il est inspiré de
son père. On ne le sent pas. Il y a une espèce de... Alors lui, il n'est pas oiseux, il est oisif. Donc il n'est jamais au centre du monde. Il est tout le temps en train de le regarder. Et du coup, il y a un manque d'application du personnage.
Mais parce que c'est sa nature.
Oui, mais je trouve que ça fait...
Mais c'est plus que sa nature.
Ça entraîne quand même une succession de tableaux sans avoir un vrai moteur romanesque.
Mais c'est plus
puissant,
que sa nature.
Voilà. Je trouve que le livre manque d'un vrai moteur romanesque, contrairement au livre sur George Catlin, qui était très intéressant sur la manière dont il avait des relations sexuelles justement avec des Indiennes pendant qu'il était marié à Washington.
C'est plus que sa nature, c'est sa condition. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va être condamné à regarder, puisqu'il est oisif, il est rentier, à 21 ans, il va passer sa vie à regarder.
Oui, mais et d'ailleurs, pour faire un roman de 700 pages, voilà, ça manque d'un moteur central.
Non, mais non, parce que tout tourne autour de ce regard. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est une sorte de mise en abîme du récit. C'est-à-dire que tout passe par le regard de ce personnage, dont la seule condition est précisément d'être en position d'observateur. Et à partir de cette observation, même ce qui lui arrive, il l'observe. Et moi, je trouve ça très, très beau. Et non, c'est pas du tout un problème. Au contraire, l'articulation et le pivot du livre tient précisément à cette condition de quelqu'un qui est rentré à 21 ans.
Il n'y a pas d'enjeu romanesque. Il n'y a pas d'enjeu romanesque qui
mais si, parce que tout est là.
Il y a un enjeu esthétique, quand même.
Tout est là.
Oui, mais uniquement métaphysique.
Mais tout est là dans la force de son regard.
Un enjeu esthétique, ça peut pas fonctionner.
Mais si, parce que tout est là dans la force de son regard et la qualité de son regard, qui rivalise avec les géants de l'impressionnisme qu'il observe. Et je trouve que là, c'est une gageure. Parce que l'enterrement de Victor Hugo, tu peux le dire, ok, c'est un moment, mais il faut le réussir. La traversée Lindbergh, il faut la réussir.
Oui,
tu vois,
il n'a pas tort. Donc,
et puis écrire sur Flaubert sans tomber dans les banalités qu'on a.
Ouais, non, quand même, hein, sur Flaubert et Maupassant, on n'est pas loin des clichés. Quand
Non.
Tupinaille.
Voilà, exactement.
C'est un des beaux romans de cette rentrée, voilà. En plus un des plus ambitieux. Et puis encore une fois, moi je conseille tous les autres livres de Grinville parce qu'il y en a une trentaine formidable, mais c'est peut-être celui où il est le plus conteur, je trouve, depuis longtemps qu'il écrit. Et donc là, c'est au seuil, c'est Falaise des Fous, et c'est donc signé Patrick Grinville. Je voulais leur dire mon amour. Alors là, c'est un livre beaucoup plus court, vous avez dû être contents les uns les autres, hein, 120 pages. Chez Gallimard, de Jean-Noël Pancrazy, l'auteur de notamment de Madame Arnoul, Les Dollars des Sables, La Montagne, dont je rappelle, Pancrazy, qu'il est né à Sétif en 1949, dans cette Algérie où il a passé les 10 premières années de sa vie, qu'il a donc quitté en 62, comme beaucoup, et où il est revenu pour la première fois 50 ans plus tard, à l'occasion, c'est évidemment un prétexte, d'un festival de cinéma méditerranéen qui se déroulait à Annaba, dans l'est du pays, sa région d'origine. Et il comptait bien profiter de cette occasion pour revoir Sétif et la maison de son enfance. Mais un événement étrange, d'ailleurs, en a décidé autrement. Il a été expulsé de son pays natal, sans explication. C'est le récit. Là, c'est Pancrazy qui parle de ce retour cassé que je fais ici. Un récit, d'ailleurs, qui semble écrit dans une seule et longue phrase, très compacte. Très belle aussi, d'ailleurs, les derniers mots étant « J'étais revenu avec la seule intention de leur dire mon amour ». Arnaud ?
Oui, c'est le titre aussi, d'ailleurs. « Je voulais leur dire mon amour ».
Ben oui, c'est pour ça.
J'adore ce genre de titre, parce qu'on dit, on voit le titre, on dit bah, « c'est bon, mon pote, tu l'as dit, quoi ». ça évite un peu de se plonger un peu dans toute cette affaire. ça m'a fait penser à Cinéma Paradiso, vous vous souvenez de ce film?
Oui.
Cinéma Paradiso. Oui, parce qu'il y a quand même cette idée. Quand même,
non, je ne m'en souviens pas.
Je connais, alors là, pour le coup,
Paradiso.
C'est moi qui n'avais jamais lu un livre de Jean-Noël Pancrazy jusqu'à présent. Donc je découvre cet écrivain. Sympa, ce truc sur l'Algérie. Pas très gentil avec les Algériens, par ailleurs. Mais oui, il y a un côté comme ça, voilà, proustien. Je reviens en Algérie. Ce qui est très bien décrit, c'est les petits festivals de cinéma. Voilà, c'est une espèce d'ambiance très particulière, là, avec, donc, là, dans un pays qui est heurté à ce moment-là, puisqu'il revient à un moment, c'est ce moment où cet alpiniste avait été assassiné. Cet alpiniste, vous vous souvenez, c'est l'histoire français. Et donc, voilà, il voulait dire son amour, et il l'a dit. Il explique aussi qu'il est très content, visiblement, parce qu'il dit quatre fois qu'un de ses livres a été adapté au cinéma, avec Géraldine Chaplin. Voilà. Donc, ça a l'air de lui faire plaisir, moi aussi.
Olivia.
C'est un beau livre, c'est un livre très élégant. Comme si Pancrazy avait terriblement peur de se laisser aller à l'émotion. On a l'impression de quelqu'un qui va rentrer dans un volcan et qui a peur de ce qu'il va y trouver. Hein. Donc c'est un livre très élégant, ce qui est à la fois sa vertu et aussi un peu son verrou. Tu disais que c'était comme une très longue phrase, c'est un livre assez compact, dans lequel parfois il est difficile de rentrer. Il est ramassé, il n'y a quasiment pas de paragraphe.
Il y a un drapé.
Oui,
il y a un drapé.
C'est un drapé, voilà. Exactement. Après, je trouve que Pancrazy est une sorte de portraitiste, il fait des miniatures, et il y a des portraits magnifiques, notamment des jeunes gens qu'il rencontre là-bas. Il y a un jeune homme qui rêve d'aller à Nice à cause de la baie des Anges. Il y a des phrases très très belles où il pense qu'à Nice, voilà, il y a des anges qui veillent sur les promeneurs et sur les baigneurs. Et on comprend que le frère de ce jeune homme est parti un jour dans une barque et qu'on ne sait pas ce qu'est devenu la barque. Je trouve qu'il a une manière, en très très petit portrait, de raconter quand même le monde d'aujourd'hui. Il y a deux phrases sur le père qui, un jour, Il dit « Mon père n'a pas supporté le rapatriement ». Et un jour, il a dit à son père, à son fils, à Jean-Noël Pancrazy, je n'ai même pas de quoi te payer un billet de cinéma. Mmh. Et puis il est parti, puis il n'est jamais revenu. D'ailleurs, je trouve que comme ça, il y a
beaucoup d'histoires sur sa famille en Algérie qu'il avait racontées dans d'autres livres, dont d'ailleurs la
c'est,
montagne.
C'est un livre qui est fait avec beaucoup de tendresse et avec beaucoup d'épines qui vous écorchent comme ça.
Jean-Claude.
Oui, enfin, il y aurait tout ce que tu dis s'il n'y avait pas ce petit problème de style. Quand même, parce que... Certes,
ah non, il n'y a pas de problème de style, là.
Certes, il met 50 ans à y revenir. En fait, il a peur d'y aller. Et de la même façon, il n'a pas vraiment envie de se confronter à ce passé qu'il repousse tout ce temps.
Ce qu'on peut comprendre, hein,
mais tout
franchement.
À fait. Mais tout à fait. Et quand il arrive l'épisode final, même si c'est un épisode contraint pour lui, on a l'impression qu'il est soulagé, finalement, de ne pas y aller, même s'il ne va pas le dire. C'est-à-dire, il a tellement eu peur d'y aller.
C'est ça qui est assez beau.
Alors, c'est vrai qu'il y a des descriptions superbes sur les petits festivals de province. Il y a le souvenir d'un attentat qu'il a vécu quand il était enfant, qui est très, 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 très bien écrit. Mais tout le propos est respectable. Mais ce problème de style, c'est-à-dire ces longues phrases interminables, bourrées de points-virgules, et je suis un militant de la réhabilitation du point-virgule. Mais là, je rejoins Alain Madelin, trop de points-virgules tue le point-virgule. C'est-à-dire qu'à un moment.
Alain Madelin,
mais oui,
ça.
Mais oui, enfin, il avait parlé de l'impôt. Mais c'est la même idée.
Alain Madelin,
il avait parlé de l'impôt. Il avait parlé de l'impôt.
Commencer l'année en citant Alain Madelin, c'est parce qu'il a plus.
C'est un détournement.
C'est très fort.
Jean-Claude.
Alors, je reviens aux sources. Attendez. Je reviens aux sources. Alain Madelin avait dit trop d'impôts, tue l'impôt. Eh bien là, trop de points-virgule tue le point-virgule. Il y en a trop. Et ça gêne. Non, mais ça gêne la lecture. Et je trouve que ça l'encombre. Et du coup, tout ce que vous dites de façon mesurée en disant c'est compact, c'est ça. Mais à un moment, il y a un problème de lecture. Tu te dis, mais pourquoi tu t'es pas laissé aller à faire des phrases plus fluides?
Parce qu'il ne peut pas se laisser aller.
Mais bien sûr, parce
il
que
ne peut
le,
pas.
Mais
le c'est le, impossible.
Mais le passé est encombrant, le passé est lourd, mais c'est dommage qu'il soit passé par cette forme-là pour le traduire.
Michel, mais quel beau livre.
Je voudrais décrire Michel à nos amis auditeurs. Michel a l'air d'une vierge au pied d'une croix,
oui.
Tellement son
non.
visage est douloureux.
Michel n'a pas l'air d'une vierge, non. Non.
Non, non, comme un moine du Gréco qui supplie le... Non, non, c'est un très beau livre, évidemment. Et c'est une seule et unique phrase, en effet, c'est un flux de mémoire. Et j'adore que le cinéma occupe une place dans ce texte.
Vrai.
Tout à fait envoûtante, comme si la salle de cinéma, pour lui, pour ses souvenirs, pour son enfance, pour tous ceux qui sont allés voir ses films, avait été une espèce de paradis, un lieu merveilleux. Et il arrive à tisser la mémoire de ces moments-là avec l'histoire qui se déroule aujourd'hui, le terrorisme, la violence, etc. Non, j'ai admiré profondément l'aisance de ce texte, sa simplicité. Et en même temps, oui, en effet, quelque chose d'un peu sentimental qui peut parfois être un peu lourd, mais en fait, non. Et puis, c'est pas grave, parce que le sentiment peut être aussi un peu lourd, et c'est comme ça. Barthes l'avait très bien expliqué, et d'une certaine manière, je pense que j'ai pensé à Barthes en lisant ce livre. Barthes aurait aimé ce livre, j'en suis certain.
Eh bien, tu voulais lui dire son amour. Ton amour, tu l'as très bien fait, Michel. Je voulais leur dire mon amour, c'est donc chez Gallimard, de Jean-Noël Pancrazy. Je le disais en début d'émission, 500 nouveaux romans, peut-être que vous avez choisi dans cette nouvelle rentrée littéraire un roman à conseiller à nos auditeurs. On va commencer avec Arnaud.
Tout le pouvoir aux soviets de Patrick Besson chez Stock. Patrick Besson profite du 100e anniversaire d'octobre 17 pour faire un roman absolument marrant. Rapide, alors là, voilà, ça va très très vite, c'est un siècle de communisme à la fois russe et français, c'est deux familles qui vont ne cesser de se croiser de génération en génération, ils sont tous communistes et surtout, ils sont tous amoureux de la littérature russe, qu'ils soient français ou soviétiques ou russes, et ils veulent vivre ce qu'ils ont lu dans les livres chez Tolstoï, chez Nabokov, et c'est vraiment une espèce de déclaration d'amour, y compris d'ailleurs à la période soviétique de la littérature communiste, avec que faisait traduire Aragon chez Gallimard, justement, et c'est juste, et c'est marrant, il y a une espèce de dans les dialogues, de vivacité, un rapport à la vie et à la littérature qui est franchement juste éblouissant. C'est un très grand livre de Patrick Besson, qui peut être très paresseux par moments, oui. Et qui là a vraiment sorti...
Que le Arnaud Vivien qui vous dit ça est quand même l'auteur du génie du communisme, hein. Je le rappelle quand même.
Je ne dis pas, mais c'est pas alors, du tout un livre sur le communisme idéologique. C'est un livre justement sur, la, sur alors, le communisme titre, culturel. C'est ça qui est très beau. Tout le pouvoir aux soviets. On voit d'ailleurs le livre commence c'est avec Lénine à Paris qui va au cinéma justement place de Clichy dans ma circo.
J'allais donc... dire qu'est-ce qu'il parle de ta circo.
Olivia.
Tu me l'as enlevé de la bouche. Eh bien, c'est un livre aussi chez Stock et c'est un livre qui questionne la vie et la littérature. Ça s'appelle Les Bouées jaunes. C'est signé Serge Toubiana. Et Serge Toubiana a été le compagnon de l'écrivaine Emmanuelle Bernheim pendant 28 ans. Et il raconte la manière incroyable qu'elle a eue de mourir. Elle savait qu'elle était condamnée et elle a invité tous ses amis, qui sont parfois des gens connus, parfois des gens inconnus, à venir la voir. Et donc venez la voir, Catherine Deneuve ou Michel Houellebecq. Et à chaque fois, elle leur demandait, alors qu'elle allait mourir, est-ce que vous êtes heureux ? Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Il raconte ça, moi je trouve que c'est absolument lumineux. Et puis après, il y a une deuxième partie, une dernière partie, où il raconte le dernier roman qu'Emmanuelle Bernheim était en train d'écrire. Et on est vraiment heureux de retrouver son écriture, même si c'est par bribes. Et puis je trouve qu'il dévoile une sorte de mélancolie souterraine d'Emmanuelle Bernheim, qu'on ne connaissait pas, avec des pans de sa vie douloureux. Il a une manière de la dépeindre avec un amour fou et en même temps avec une grande lucidité. Je trouve ce livre vraiment transperçant. Ça s'appelle Les Bouées jaunes et c'est chez Stock.
Mon conseil, c'est Le vol du Gerfaut, un roman du Marseillais Jean Contrucy. C'est aux éditions HC. Et c'est un thriller sur le monde littéraire, Michel, où on voit un écrivain célèbre, lauréat du prix Goncourt et chroniqueur au monde des livres, engager un homme de main afin qu'il lui vole à l'aéroport de Marseille, le manuscrit de son 25e et dernier roman qu'il juge indigne de lui. Et tout se passe comme prévu, sauf que le roman volé réapparaît sous le nom d'une inconnue. C'est le début, ou presque, de ce roman et l'occasion pour Contrucy de railler évidemment les mœurs parisiennes. Une édition plus jacobine que le pouvoir politique et puis surtout les critiques qu'il appelle quand même des charognards, comme il le fait avec l'accent marseillais, évidemment. Ça passe mieux. Jean-Claude, je crois que tu l'as lu d'ailleurs toi aussi.
Oui, et je l'aurais recommandé aussi. Je me doutais que tu le ferais et j'avais très envie de le recommander. Moi, je vous recommande le 5e livre de François Garcia, qui est un auteur qu'il faut suivre. Ça s'appelle Bye Bye Bird. C'est chez Verdier. C'est le récit très marrant. Dans les années 60, le séjour linguistique à Bristol d'un jeune bordelais de 14 ans qui va découvrir une Angleterre qui est tellement à l'opposé de ce qu'il vit et tout ça. Donc les modes vestimentaires, les habitudes alimentaires, la liberté sexuelle au temps de l'acné, les provocations adolescentes qui n'étaient pas du tout prévues au programme des échanges linguistiques. Et puis surtout le gros problème de Bristol à ce moment-là, qui est la grande bagarre entre les rockers et les modes. C'est une chronique hilarante de déconvenues de ce jeune personnage autobiographique qui court dans tous les livres de François Garcia, qui est son double, qui s'appelle Paco Lorca.
Et donc, tu rappelles le titre.
Oui, alors Bye Bye Bird, François Garcia chez Verdier, et c'est un styliste formidable.
Le conseil de Michel.
Alors moi, je voudrais vous recommander une écrivaine américaine qui n'est pas encore vraiment, à mon avis, à sa place ici en France, c'est Marilyn Robinson. Ça s'appelle « Quand j'étais enfant, je lisais des livres », et c'est en fait un récit, un essai sur la société américaine que je recommande vraiment à
l'heure. C'est un roman ou un essai ?
Les deux. Mais plus un essai qu'un roman, très honnêtement. Mais à la manière américaine, c'est une héritière de Thoreau, de la vie à Walden et tout ça. C'est vraiment, je trouve, anormal que Marilyn Robinson ne soit pas...
ce soir, elle n'est plus inconnue.
Mais grâce à mon éloge, mais... J'espère que ça va passer.
Si ça vient de Crépus, forcément, ça va devenir universel. Tu rappelles le titre, juste ?
Quand j'étais enfant... Je lisais des livres. Oui. Marilyn Robinson.
C'est bizarre comme titre.
Texte sud, traduit par Simon Baril.
Très bien. Le prix ?
Le prix ?
Et l'ISBN ?
22,80 €.
Tous ces conseils...
c'est pas une tragédie quand même.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup, Olivia de Lamberterie. Arnaud Vivian, Jean-Claude Raspien-Jas, Michel Crépus pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam à la technique au Charles Trenet ce soir. Et je les remercie, Eric Boisset, Julie Garraud, Bastien Varigaud. La réalisation était de Didier Lagarde, que je remercie également. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh bien, c'est le jeudi 11 janvier. Je vous attends nombreux à 20h au studio Charles Trenet de la maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au livre, l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parlera de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.